Bonsoir. Ce soir, nous avons une pensée émue pour notre ami Dominique Auclair, qu'on appelait Dom, et qui nous a quittés le 12 mai. Il a été pendant de nombreuses années membre, puis administrateur de C3V au sein de sa collégiale. Son investissement auprès de Réseau Solidarité Migrants 89 a renforcé le souci que nous avions de ces anomalies de notre société. Merci, Dom. Cette sixième conférence, comme toujours entièrement fait main, bio et local, laissera la parole à Catherine Fumé qui nous parlera de l'avenir radieux que nous prépare EDF avec son projet de piscine d'entreposage de combustibles usés hautement radioactifs au bord de Loire à Belleville. Elle sera également enregistrée et mise en ligne. Vous pourrez comme toujours faire vos commentaires ou poser vos questions sur notre adresse courriel c3vdebat@zoneloutre.fr. Si vous préférez réagir en direct, rédigez votre question ou le sens de votre intervention sur cette même adresse et laissez votre numéro de téléphone pour que nous libérions votre ligne. Vous pouvez dès à présent laisser vos messages, ils pourront ainsi être lus et traités au cours de la conférence. Mesdames et messieurs, merci d'avaler votre pilule d'iode, de placer correctement votre masque à gaz, d'enfiler votre combinaison de protection et d'attendre l'ouverture du sas de décontamination. Votre conférence hier, Catherine Fumé est arrivée. Bonne soirée.
Merci Eliane. Eh bien bonjour, moi c'est Catherine Fumé. Donc d'abord je remercie toute l'équipe de C3V pour l'organisation de cette soirée. Je remercie toutes celles et ceux qui écoutent et toutes celles et ceux qui ont déjà ou qui vont poser des questions. Donc, je me présente très vite. Je suis habitante riveraine de la centrale de Belleville-sur-Loire. Hein, j'habite à 10 km. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au nucléaire après la catastrophe, particulièrement après la catastrophe de Fukushima, à me poser des questions et à lire sur ce sujet, etc. Et donc, j'ai rejoint deux ans après le groupe qui milite autour des centrales de Belleville et de Dampierre, qui s'appelle Sortir du nucléaire Berry, Giennois, Puiset, dont je suis devenue une membre active. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée au conseil d'administration du réseau Sortir du nucléaire au niveau national. Et de ce fait, j'ai eu à rencontrer beaucoup de militants de terrain, beaucoup de scientifiques, des journalistes, des juristes, et à m'intéresser à pas mal de sujets. Et c'est là, du coup, que j'ai eu vent de ce projet de piscine d'entreposage centralisé hein, qui a été divulgué par le journal Reporter en février 2018. Et suite à cela, eh bien, j'ai pu participer à des réunions qui ont été organisées, deux réunions qui ont été organisées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire et l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, et qui avait invité EDF à venir présenter ce projet. Donc, il y avait pas mal d'ONG et de représentants du monde associatif qui ont pu poser leurs questions, leurs interrogations, etc. Et on a eu accès à ce moment-là au gros dossier que EDF avait déposé à l'Autorité de Sûreté Nucléaire, qui fait plus de 130 pages. Et voilà, il était confidentiel au départ. Maintenant, tout le monde peut le regarder. Il est téléchargeable sur le site de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Voilà. Donc, je vais entamer cette soirée. Je pense que le contexte est assez favorable parce que cette crise sanitaire du Covid a permis, je pense, à beaucoup de gens de se poser des questions sur notre fonctionnement, sur notre modèle de société et aussi sur notre consommation et notre production d'énergie, et sur les échelles industrielles, sur l'avenir, etc. Voilà. Et puis, c'est d'actualité parce que il y a un jour, le 20 mai, il y a eu donc une parution au journal officiel des orientations du gouvernement par rapport à la gestion des matières et des déchets radioactifs. Et donc, il a été dit, je vous le lis, donc c'est l'Autorité de Sûreté Nucléaire hein, qui parle. L'autorité a en outre rappelé qu'elle jugeait urgent de mettre en place des capacités supplémentaires d'entreposage de combustibles nucléaires usés en France, en particulier après le court arrêt de l'usine de retraitement de La Hague, survenu au début de la période de confinement. Donc, c'est urgent. Voilà. Alors, mon exposé. J'espère ne pas vous soporiser, ne pas vous perdre en route. Je vais le faire en 5 parties. J'espère pas trop longue. Et à la fin de chaque partie, on fera un petit break avec Claude qui anime la soirée, qui me dira si c'était trop technique, ce qu'il n'a pas compris. Donc, je pourrais peut-être reformuler. Puis, à la fin des 5 parties, on prendra toutes les questions pour y répondre et les interventions.
Très bien. Merci, Catherine.
Ça va, Claude? Tu es là?
Ouais,
bon. Donc, j'attaque la première partie.
Voilà, vas-y. À toi.
C'est parti.
Tu voulais dire quelque chose par rapport à des questions qui te seraient arrivées là récemment?
Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a déjà eu des questions qui sont arrivées sur le site de C3V, notamment des questions assez larges sur le choix du nucléaire, sur le fait que certains présentent le nucléaire comme une énergie d'avenir par rapport aux problèmes climatiques. L'énergie nucléaire étant peu carbonée, il y a des débats, il y a des controverses à ce sujet. Je pense que c'est un sujet très intéressant, mais très vaste, et que malheureusement, je n'aurai pas le temps, si je veux vous présenter ce projet très particulier de la piscine, je n'aurai pas le temps de parler de ça ce soir. De même qu'il y a des personnes qui m'ont demandé de parler de l'EPR, de parler de Bure, du centre d'enfouissement, j'y ferai très rapidement allusion, mais voilà, on ne va pas pouvoir tout développer. C'est énorme, la filière nucléaire et toutes les problématiques qui s'y rattachent. Donc, si jamais vous avez envie qu'il y ait des sujets comme ça qui soient abordés, bah, peut-être que C3V pourra, dans l'avenir, réorganiser des conférences, soit téléphonées, soit en présentiel, sur ces sujets. Mais moi, pour ce soir, je suis désolée, c'est très intéressant, mais je vais m'en tenir au sujet de la piscine. C'est bon, Claude?
D'accord. Ouais. C'était important de repréciser ça parce que c'est vrai que, y compris quand on a préparé, on partait sur des choses et tout ça. Et c'est vrai que le sujet est tellement vaste que déjà sur la piscine, on te remercie de cibler bien là-dessus.
D'accord. Alors, je vais attaquer la première partie parce que donc pour comprendre pourquoi. On en arrive à ce que l'État et EDF proposent ce projet-là, il faut faire un peu d'histoire. Il faut revenir en arrière pour comprendre une succession de choix qui nous amène là. Alors, je vais repartir juste après la Seconde Guerre mondiale, donc en 45, après 45. Il y a eu donc la volonté de Gaulle de doter la France de la bombe atomique. Pour jouer dans le camp de la dissuasion nucléaire et pour avoir une certaine autonomie dans la défense nationale. Donc, la France s'est engagée sur un programme de nucléaire militaire. Mais pour faire une bombe atomique, il faut du plutonium. Le plutonium, ça n'existe pas du tout à l'état naturel. Le plutonium, il est issu des transformations de l'uranium suite à une réaction nucléaire, à des réactions de fission nucléaire. Donc, du coup, l'État français a décidé de créer une pile atomique, l'ancêtre des réacteurs nucléaires, une pile atomique qui était installée au Saclay, et il a créé une usine d'extraction de plutonium à Marcoule, dans le Gard, en 1958. Et puis, pour pallier une éventuelle défaillance de cette usine d'extraction, là, il y a une deuxième usine d'extraction de plutonium qui s'est créée. Elle a commencé à fonctionner en 1966, sur le site de La Hague. La Hague, c'est donc près de Cherbourg, tout au bout du Cotentin. Voilà, donc on se retrouve à avoir du plutonium pour la bombe atomique. Mais en 1969, Pompidou redéfinit la politique nucléaire française parce que, en fait, on avait assez de plutonium, un stock suffisant pour les nécessités de l'armement, et donc on a réorienté la politique nucléaire. Ça, c'était en 69, et à partir de 71, avec le premier choc pétrolier, donc Giscard d'Estaing a fait le choix du tout nucléaire. Donc on s'est orienté vers le nucléaire civil, qui est le nucléaire pour la production d'électricité. Évidemment, dans le but de que la France soit autonome et une marge de manœuvre par rapport aux pays producteurs de pétrole. Et puis en 1974, il y a eu le fameux plan Messmer. C'était un vaste programme dont l'ambition était de construire 100 réacteurs électronucléaires en France. Bon, finalement, il n'y en a que 58 qui ont été construits. Il n'y en a plus que 57 à l'heure actuelle, puisque il y a un des réacteurs de Fessenheim qui a été fermé là récemment. Mais ces 57 réacteurs nucléaires font encore de la France le pays le plus nucléarisé au monde, c'est-à-dire quand on compare le nombre de réacteurs à son nombre d'habitants. Voilà, donc on se retrouve avec un choix du tout nucléaire, qui est un choix français. Il n'y a pas tant de pays que ça qui sont aussi nucléarisés. Voilà, et puis après, pour comprendre la piscine, parce que cette piscine, elle va accueillir des combustibles usés et des combustibles très particuliers en grande partie, un combustible qui s'appelle le MOX, hein, qui est un alliage d'uranium et de plutonium. Et donc, ce plutonium qui ne sert plus à l'armée, à la bombe, bah, maintenant qu'on avait des usines pour l'extraire, bah, il fallait en faire quelque chose. Donc au départ, il a été envisagé donc, d'utiliser le plutonium pour faire fonctionner un surgénérateur. Hein, ça devait être le combustible du surgénérateur, notamment de Superphénix. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'était. Enfin bon, c'était un surgénérateur qui devait produire de l'électricité à partir de ce plutonium. Et en fait, Superphénix, bah, il y a eu des gros problèmes de fonctionnement, il y a eu des accidents et il a été abandonné. Mais on continue à extraire du plutonium des combustibles nucléaires usés. Donc, en 82, EDF a décidé d'utiliser une autre solution, qui est donc de fabriquer un nouveau combustible qui allie de l'uranium et 8 à 9% de plutonium. Le plutonium, c'est beaucoup, beaucoup plus radioactif et beaucoup plus radiotoxique que l'uranium. Les pastilles de MOX, ce combustible, elles sont plusieurs milliers de fois plus radioactives que celles de l'uranium. Alors, il faut peut-être que je vous explique à ce moment le cycle du combustible. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop ardu, que je ne vous paume pas, que vous comprenez ce que je raconte.
Ça n'a pas l'air pour l'instant. Ça pas l'air.
Que là, ça va. Tu comprends, toi? Bon, donc comment ça fonctionne en fait, comment ils fonctionnent nos réacteurs nucléaires? Alors, pour ça, il faut de l'uranium au départ. Hein. Donc, au début, l'uranium, on l'avait en France. Hein. On avait des mines d'uranium en France, dans le Limousin, dans les Deux-Sèvres, dans différentes régions. Et on extrayait notre propre uranium. Donc, il y avait là une certaine idée de l'indépendance énergétique. Mais petit à petit, on les a fermées, ces mines, parce qu'il n'y avait plus d'uranium, parce que ça devenait trop compliqué, etc. Maintenant, l'uranium qu'on utilise pour faire fonctionner nos réacteurs, il vient du Niger, il vient du Kazakhstan, il vient de l'Australie, il vient un peu du Canada, et on est en train de prospecter du côté de chez les Inuits. Donc, on ne peut plus dire qu'on est vraiment indépendant énergétiquement, parce que si on n'a pas cette matière première qui vient d'ailleurs, de pays où on pratique l'extractivisme, eh ben, on ne pourrait pas continuer. Bon, bref, on extrait dans ces pays donc le minerai d'uranium. En fait, il y a une énorme proportion de résidus miniers qu'on laisse sur place. Mais avec ce qu'on essaye d'extraire, qui est les principes les plus actifs de l'uranium, on fabrique une espèce de pâte qui est jaune, qui s'appelle le yellow cake, le gâteau jaune. Voilà. Ce yellow cake, il est acheminé vers la France par bateau. En grande partie, il arrive au Havre. Après, il est transporté jusqu'au sud de la France. Là, il y a toute une série d'usines quand on remonte toute la vallée du Rhône. Donc, on va d'abord mettre ce yellow cake, le transformer, et puis le mettre dans une centrifugeuse qui va séparer l'uranium appauvri, c'est celui où les isotopes d'uranium ne sont pas très fissiles, vous voyez, ne perdent pas trop facilement des électrons, ne vont pas donner des réactions nucléaires très intéressantes. Et de l'autre côté, on a l'uranium enrichi, celui où il y a exclusivement ou en grande partie des isotopes d'uranium qui sont très favorables à la réaction nucléaire. Une fois qu'on a cet uranium enrichi, on le transforme plusieurs fois en différents oxydes. d'uranium, et puis on le met, on le transforme en pastilles, en petites pastilles. Ces pastilles, on les met dans des gaines de zirconium qui font 4 mètres de long quand même, hein, ça s'appelle des crayons de combustible.
Et les pastilles, elles sont grosses comme des petits cachets ou...
Je ne sais plus comment elles sont grosses, les sues, excuse-moi, je ne sais plus. Elles sont plus grosses que des petits cachets, je pense, mais elles ne sont pas très énormément grosses. Bon, elles tiennent dans ces crayons. Mmh. Et on assemble ces crayons avec des assemblages métalliques, ça fait des assemblages de combustible. Et ça, ces assemblages de combustible, après, ils sont fabriqués à Romans-sur-Isère, je crois, et ils sont expédiés vers tous les réacteurs, les 57 réacteurs nucléaires français. Là, ils sont chargés. Bon, ils sont mis dans des piscines en attendant d'être utilisés. Après, ils sont chargés dans les réacteurs nucléaires. Et puis, ils font leur travail. Hein, il y a des électrons qui partent, ça bombarde, ça libère de l'énergie et on fabrique de l'électricité avec ça. Et on change le cœur du réacteur par tiers tous les 3 ans. La première année, on enlève un tiers, c'est le combustible usé, on appelle le combustible usé, on le met en piscine. La deuxième année, on enlève un autre tiers, la troisième année, on enlève un autre tiers et on les renouvelle comme ça par tiers. Donc, ce qui est sorti des réacteurs reste en piscine quelques mois, hein, parce que c'est très chaud, très radioactif. Et après, ce combustible usé, il est envoyé à La Hague, à ce qu'on appelle l'usine de retraitement de La Hague. Là, ils sont mis dans des bassins, dans des piscines encore, hein, c'est une affaire de piscine. Et au bout d'un certain temps, on leur fait subir un traitement mécanique, c'est-à-dire qu'on les cisaille, hein, on cisaille tous ces assemblages de combustibles, tous ces crayons, et on les met dans des bains d'acide. Et du coup, on obtient à la fin, ce qui est le résultat du retraitement, on obtient de l'uranium de retraitement, un uranium qui est beaucoup moins favorable à la réaction de fission nucléaire. On obtient du plutonium et on obtient ce qu'on appelle les produits de fission, les transuraniens, les actinides mineurs. Là, ce sont les déchets. C'est des choses qui ne vont plus du tout servir à l'industrie nucléaire, dont on ne peut plus rien faire, qui seront très dangereux, qui seront très toxiques, seront sûrement radioactifs pour certains des centaines, pour d'autres des milliers, pour d'autres des dizaines de milliers d'années et pour d'autres des millions d'années. Donc ça, ces déchets ultimes, on les vitrifie, on les met dans des fûts, ils sont pour le moment stockés à La Hague dans une immense salle sous une dalle de béton et refroidis par ventilation. Et ceux-là, ils sont en attente de CIGEO, du centre, enfin voilà, ce que l'industrie nucléaire a pensé pour leur station ultime, c'est l'enfouissement sous terre.
Et c'est Bure c'est Bure, ça, non ?
Ça, c'est Bure. Ça, c'est le centre qui est prévu à Bure. Parce que la question des déchets, elle n'a pas du tout été pensée au départ de la filière. Hein, ça a été un espèce de tâtonnement au fur et à mesure. Au début, on les a balancés dans la flotte, on les a balancés en mer. Ouais. Hein. Et puis, on a vu que les fûts se fissuraient, ça se corrodait, ça se dispersait, etc. Après, il y a eu la Convention de Londres, je ne sais plus exactement quelle année, qui a interdit de jeter les déchets en mer. Après, il y a eu tout un tas d'études. Et puis, les États nucléarisés en sont arrivés à l'idée que le mieux, c'était l'enfouissement en couche d'enfouissement. Et puis après, au niveau de l'enfouissement, il y a eu plein de sites qui ont été prospectés, hein, des sites en surface, des sites profonds, etc. Et là, actuellement, la position ultime, celle qui est en cours actuellement, c'est de faire un centre d'enfouissement très controversé qui s'appelle CIGEO, qui est à Bure. Et là, je ne développerai pas davantage, mais j'en dirai un tout petit mot après. Voilà, nous, donc ça, cela, on n'en fait plus rien. Et puis, par contre, le plutonium, vu qu'on l'a, on en fait de la poudre, qui est ultra toxique, ultra dangereuse. On conditionne dans des trucs qui font 20 kilos, des espèces de boîtes de conserve très, très, très blindées. Hein. Et on les réexpédie. Parce qu'il faut vous dire qu'il y en a des transports, hein, grâce à l'énergie nucléaire. On les réexpédie à l'usine Mellox, qui doit être dans le Gard. Et là où on fabrique les pastilles de MOX, un nouveau combustible, où on mélange donc ce plutonium avec l'uranium appauvri, vous savez, celui du début, qui avait été issu du passage dans la centrifugeuse et qui n'était pas assez intéressant. Donc on mélange uranium appauvri et plutonium. On fait des pastilles de MOX, ça veut dire mélange d'oxyde, hein, mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium. Et on les renvoie, on les met dans des crayons, on fait des assemblages de combustible et on les renvoie dans les 22 réacteurs actuels qui fonctionnent au MOX. Sur les 57, il n'y en a que 22 qui fonctionnent au MOX parce que c'est un combustible extrêmement, enfin, très, comment dire, il peut donner beaucoup plus d'énergie parce qu'il est très instable. Hein, il y a des réactions de fission, beaucoup plus de réactions de fission, donc il peut produire beaucoup d'électricité, mais il est très difficile à gouverner, il est dangereux, il est très toxique, il est très brûlant, la conduite des réacteurs est plus complexe. Donc en fait, il n'y a que des réacteurs de 900 MW, ceux qui n'ont pas des productions trop importantes, qui fonctionnent au MOX. D'accord? Les plus. Comme par exemple à Dampierre, ici. Ceux qui sont là, les plus anciens, ils fonctionnent avec du MOX. Par contre, Belleville, qui est un réacteur de 1300 MW, eux, ils ne fonctionnent pas encore avec du MOX. Mais comme on ne sait plus quoi faire de tout ce plutonium, il est en projet de faire fonctionner aussi les 1300 MW avec du MOX. Et le projet, c'était aussi de faire fonctionner l'EPR avec du MOX. Et en particulier, peut-être les 6 EPR que l'État envisage de construire. Hein. Mais par contre, là, l'EPR de Flamanville, du coup, lui, il ne pourra pas fonctionner avec du MOX parce que son fond de cuve, son couvercle de cuve sont défectueux. Donc, ce serait trop dangereux de le faire fonctionner avec du MOX. Donc, ça, on ne va pas pouvoir l'utiliser là.
D'accord.
Alors, ce MOX, bah, une fois qu'il a servi dans nos 22 réacteurs, eh ben, on ne sait plus quoi en faire. On ne le retraite pas. On le renvoie à la Hague, encore une fois, et là, on le remet dans des piscines, et puis, bah, il est là, en stand-by, en attente. En attente de quoi? Alors, le fantasme de la filière nucléaire, c'est d'arriver à fabriquer ce qu'ils appellent des réacteurs de quatrième génération, des surgénérateurs encore, hein, des nouveaux Superphénix. Donc, on a un projet en France qui s'appelle Astrid. Peut-être vous en avez entendu parler. C'est un espèce de prototype de surgénérateur, de générateur de quatrième génération, avec des participations étrangères aussi, etc. Mais il se trouve que l'été dernier, en août, je crois, 2019, bah, l'État a annoncé qu'il renonçait à ce projet Astrid, qui coûte des milliards d'euros, qui n'avance pas vite, qui est, voilà. Alors, il renonce complètement. Soit c'est en stand-by au moins pour 50 ans, mais ça risque d'être assez, comment dire, de l'ordre du fantasme quand même, ces réacteurs de quatrième génération. Quand on voit que déjà le réacteur de troisième génération, qui est l'EPR, eh ben, il n'est pas encore fait, hein, il n'est pas encore opérationnel. Donc le plutonium, il attend dans les piscines pour ça, pour servir un jour ces réacteurs fantasmatiques, ou bien, comme il apparaît maintenant, dans le dossier qui présente la piscine, et ben peut-être finalement il sera pour Bure, pour Cigéo. Et s'il doit aller à Cigéo, il faut encore le retransformer parce que c'est trop chaud, trop radioactif, etc. On ne peut pas le conditionner comme tel et l'enfouir à grande profondeur. Voilà, donc je vous ai expliqué la fabrication du MOX, je vous ai expliqué qu'il attendait à la Hague, et là maintenant. Le problème, c'est le dernier point de cette première partie. Le problème, c'est que les piscines de la Hague sont saturées. Enfin, elles arrivent à saturation. Elles sont autorisées à entreposer au maximum 17 600 tonnes de métaux lourds irradiés. Et ben, très rapidement, elles ne pourront plus absorber. Alors, il est dit que bon, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit fait à l'horizon 2030, donc dans 10 ans. Qui soit construite pour fonctionner dans 10 ans. Mais peut-être même avant, il y aura des problèmes de saturation. Donc, face à ça, l'État, depuis 2006, hein, en 2006, il y a eu une loi sur la transparence et la sûreté nucléaire. Et depuis ce temps-là, tous les 3 ans, on élabore ce qu'on appelle un plan de gestion des matières et des déchets radioactifs, le PNGMDR. Et l'avant-dernier ou dernier, enfin l'avant-dernier PNGMDR avait déjà entrevu qu'il y avait problème, hein, qu'on allait se retrouver avec ces combustibles qu'on ne pouvait plus accueillir nulle part, ces combustibles. Donc l'État avait déjà demandé à EDF de déposer avant mars 2017 une stratégie pour gérer ces combustibles usés. Et en juin 2017, avant juin 2017, un dossier technique pour sa solution, pour ses solutions d'entreposage. Bon, sauf que EDF l'a fait hein, en temps et en heure. Donc en 2017, ils ont déposé leur dossier, mais ils ont présenté une seule solution. La piscine d'entreposage centralisée. Voilà. Alors qu'il y a, on en reparlera après, il y aurait peut-être d'autres solutions, d'autres alternatives. En tout cas, ils n'ont proposé qu'une seule. Ce dossier, il a été soumis à l'autorité de sûreté nucléaire, qui a rendu son avis l'été dernier. Maintenant, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Ouais. Voilà, j'espère que je suis à peu près dans les temps.
Non, non, tu n'es pas à la bourre, mais...
Mais après, non, ça va être plus court que prévu. Bon.
alors, est-ce que... Je te dis quand même les questions, tu y réponds peut-être pas forcément tout de suite, mais il y a directement quelque chose que tu vas aborder après, c'est sur la taille ouais. de Belleville éventuellement, combien de temps ça mettrait, et après. Et puis une autre question qui... Alors, par rapport à ce que tu as dit, c'est est-ce qu'il faudrait faire fonctionner des centrales pour alimenter en MOX les autres? Enfin, tu vois, c'est-à-dire que quelque chose qui se mordrait la queue, tu vois, un cercle. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis là. J'essaye de faire vite, mais.
De construire des centrales pour utiliser le MOX, non?
Pour fonctionner des centrales pour fabriquer du MOX, en fait, pour alimenter en MOX.
Ben, c'est déjà ce qu'on fait. Hein. C'est les centrales existantes qui font qu'on fabrique le MOX.
C'est ça.
C'est à cause des déchets. Alors. Ce qu'il y a, c'est qu'on a fait le choix du retraitement. Il y a plein de pays qui n'extraient pas le plutonium et qui ne fabriquent pas du MOX. On est très peu, il y a d'ailleurs 3 pays qui fabriquent du MOX, hein. Et qui stockent leurs déchets, comme ça, les déchets d'uranium, là, d'uranium usé, de combustible d'uranium usé, et qui ne se fatiguent pas à fabriquer du MOX, qui déjà est très cher, hein, c'est un procédé très coûteux, et qui nous met devant un problème insoluble, parce que le MOX, quand il est usé, il est brûlant, il doit rester sous eau entre 50 et 100 ans avant qu'on puisse en faire autre chose, et il est très radiotoxique. Voilà. Mais ça ne servira à rien de fabriquer d'autres centrales. Hein.
Ok. Alors, voilà. Vas-y, continue de développer donc ton projet, la description du projet de Belleville.
Voilà,
alors.
La description du projet, ça va répondre à la question, à la première des questions que tu m'as transmises. Ouais. Voilà. Ce projet, c'est donc une piscine, c'est un entreposage sous eau et centralisé. Alors, l'entreposage, je vous ai expliqué, hein, c'est parce que c'est pas, si c'était un déchet, si le MOX usé était considéré comme un déchet, ce serait du stockage définitif, c'est ce que va faire Cigéo. Hein, voilà. Mais c'est pas du stockage qu'on fait, c'est de l'entreposage parce qu'on pense que c'est pas définitif, qu'à un moment ou à un autre, ça peut être réversible. Et pourquoi sous eau? D'une part parce que le MOX usé, puisque ce sera lui en grande partie, même s'il n'y aura pas que du MOX usé, il y aura aussi deux ou trois autres types de combustibles usés. Il est donc, je vous ai dit, très radioactif, donc l'eau confine, fait barrière à la radioactivité et refroidit parce qu'il est extrêmement chaud. On a fait le choix de l'entreposage sous eau. Mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres types d'entreposage qui existent de par le monde. Et par exemple, aux États-Unis, on ne fait que de l'entreposage à sec. C'est-à-dire qu'on entrepose à l'air libre dans des conteneurs avec des espèces de sarcophages en plomb, des entourages en plomb, et la ventilation se fait par l'air. Hein. Mais eux, ils n'ont pas de MOX. Hein. Mais par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire que là, on a du MOX usé qui est dans les piscines de lacs depuis très longtemps. Et l'IRSN, l'année dernière, au moment du débat public, a fait une étude et a montré qu'on pourrait désengorger les piscines de lacs avec les premiers MOX usés et aussi s'appelle l'uranium de retraitement enrichi qui est aussi stocké à La Hague et qu'on pourrait donc du coup faire de la place pour accueillir le MOX fusé, le temps qu'il refroidisse en piscine et le temps qu'après on le mette en stockage à sec. Voilà. Mais EDF est parti dans une option technique, dans une option technologique qui est celle de la piscine. Et qui plus est, de la piscine centralisée. C'est-à-dire qu'on va rassembler au même endroit l'équivalent de 100 à 120 cœurs de réacteurs. Je ne sais pas si vous imaginez. Par exemple, à Belleville, on a deux cœurs de réacteurs en même temps. Et déjà, s'il y avait un accident nucléaire, ce serait une catastrophe. Hein. À Fukushima, il y avait quatre réacteurs. Quatre cœurs de réacteurs. Là, on en aura entre 100 et 120. On aura 10 000 tonnes de métaux lourds irradiés au même endroit. Donc, ils ont fait un choix de concentration extrême. Moi, je pense que ce choix, c'est pour des raisons économiques essentiellement, parce qu'en fait, soit on aurait pu agrandir les piscines à La Hague, soit on pourrait aussi penser stocker sur place, là où on produit, et quand on enlève le MOX fusé des centrales, on pourrait les stocker dans des piscines sur site, ce qui éviterait tous les problèmes de transport. Mais, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Greenpeace a fait pas mal d'opérations et a fait tout un rapport pour montrer à quel point les piscines, à la fois sur les sites des centrales, là où on entrepose le combustible avant de le mettre dans les réacteurs ou une fois qu'on les a sortis, ces piscines, elles sont très vulnérables à des attaques malveillantes. Hein. C'est des hangars, les toits sont très peu solides, les bassins sont très peu protégés, donc on pourrait facilement, avec un tir de roquette, faire des fuites, etc. Et à La Hague, c'est pareil, pour le moment, la piscine de La Hague, elle n'est pas du tout sécure. Donc si on voulait rendre aussi sécure toutes les petites piscines qu'on ferait un peu partout, ce serait beaucoup plus cher que de faire une seule grosse piscine. Voilà. Donc je pense que ce choix de la centralisation, c'est un choix sûrement économique. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Voilà, mais du coup, j'espère que vous comprenez bien que c'est absolument fou de mettre autant de quantités de matière hautement radioactive au même endroit.
Une petite question pratique qui vient d'arriver là. Quelqu'un qui me dit, je comprends pas, quand on met de l'eau sur une matière chaude, ça fait de la vapeur. Oui. Les piscines sont couvertes, est-ce que ça fera comme un sarcophage? Voilà.
Alors oui, donc ça, j'avais prévu de l'expliquer après, hein, les modalités d'entreposage. Moi, je vais les expliquer un petit peu mieux après, hein, j'expliquerai. Mais effectivement, ça fait de la vapeur, ça fait de l'évaporation. Et du coup, le niveau d'eau des piscines diminue. Hein, puisqu'il y a évaporation. Et il ne faut surtout pas que les combustibles soient à découvert. Parce que là, sinon, c'est la reprise d'une réaction de fission, c'est la reprise de la réaction nucléaire, et ça peut faire un accident nucléaire gravissime. Hein. Donc effectivement, il faut toujours, toujours refroidir l'eau, la refroidir en permanence pour qu'elle ne s'évapore pas, et la réalimenter si jamais il y en a qui s'évaporent, remettre de l'eau pour que... Il faut toujours qu'il y ait, je crois, 4 mètres d'eau au-dessus des barres de combustible. Hein.
Donc ouais, là, on parle de piscine, quoi.
Voilà. Les barres de combustible, je vous ai dit, elles font 4 mètres. Bon, on ne les dépose pas directement sur le sol du bassin. Il y a un petit support. Hein, et au-dessus des 4 mètres, il faut encore 4 mètres. Donc, normalement, les bassins, ils doivent faire, cette piscine d'entreposage centralisé où il y aurait deux bassins, ça doit faire 11 mètres de profondeur. Voilà. Et donc, toujours 4 mètres d'eau au-dessus. Hein. Alors, je vais vous dire rapidement, en plus du MOX, qu'est-ce qu'il y aura dans ces bassins? Il y aura donc de l'uranium de retraitement enrichi. La France a fait ça pas longtemps. Hein, elle a utilisé l'uranium de retraitement. Après le cisaillage et les bains dans l'acide, là, on récupère de l'uranium de retraitement qui n'est plus très bon. Eh ben, on l'a réenrichi à une époque et on a fait fonctionner la centrale de Cruas en Ardèche avec ça. Donc, il y a quelques tonnes d'uranium de retraitement enrichi qui sont en stand-by à La Hague, dont on ne sait pas quoi faire. Il y a aussi tous les combustibles de Superphénix, les combustibles qui n'ont pas été utilisés puisqu'on a arrêté, et ceux qui ont déjà été utilisés parce qu'il a fonctionné pendant un moment. Donc là aussi, il y a, je crois, 120 tonnes de plutonium là-bas qui vont revenir dans la piscine centralisée. Et puis, il y a des crayons de combustible qui sont, qu'on dit, inétanches. Parce que, si vous voulez, la radioactivité, elle est contenue, confinée par ce qu'on appelle la première barrière de confinement, de protection, c'est les gaines, hein, qui sont dans un métal très particulier. Mais ces gaines, pendant le fonctionnement du réacteur et des réactions de fission, elles sont soumises à rude épreuve. Elles sont bombardées, la température est extrême, elles sont oxydées et elles sont fragilisées. Et des fois, quand on les sort hein, du réacteur, on les soulève, on les repose, elles se fissurent. Et donc là, on a de la fuite radioactive. Donc en fait, on accueillerait dans la piscine ces crayons de combustible fuyards, si je puis dire, qui seraient mis dans des espèces de cloches en verre pour contenir plus la radioactivité. On ne les mettrait pas telles quelles dans les piscines. Donc voilà, on aurait tout ce panel de matières, ce qu'on appelle donc des matières radioactives qui seraient là. Donc 10 000 tonnes, ça je vous ai déjà dit la quantité. Après la durée d'entreposage,
ouais.
Cette piscine elle est prévue pour durer 100 ans. C'est plus que les durées des réacteurs, hein. On avait dit 30 ans au départ pour les réacteurs, bon après on dit 40 ans. Là on est en train de faire des travaux gigantesques pour les faire durer 50 ans, mais là la piscine c'est 100 ans. Et oralement, EDF nous a dit qu'après, ils démantelaient, hein, ils s'engageaient à démanteler. Bon, ils ne nous disent pas comment, on ne sait pas s'il y a de l'argent provisionné pour ça. Et si jamais il n'y avait pas de réacteur de quatrième génération pour absorber ces combustibles qu'on a mis là en stand-by, et si jamais Cigéo, le BUR, ne voyait pas le jour, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est pas, ça n'a pas été envisagé. Hein, c'est pas, si ça se trouve, ça durera plus que 100 ans.
Oui, c'est ça, c'est des déchets qui durent des dizaines de milliers d'années éventuellement.
Ah mais oui, ah bah oui, c'est très très long, c'est très très long. Oui. Très très long et très très chaud et très radioactif. Hein. Voilà. Alors, voilà pour la présentation du projet. Alors, les modalités d'entreposage. Donc, ces combustibles, ils arriveront essentiellement par train. Parce que le MOX usé, c'est quelque chose de très dangereux, dont les conditions d'acheminement sont extrêmement réglementées, parce qu'il faut protéger les travailleurs, les gens, les conducteurs de convois, enfin tous les gens qui manipulent, hein, il faut les protéger parce qu'il y a des risques de contamination externe, c'est-à-dire qu'on peut avoir la peau irradiée s'il y a des fuites, de contamination interne, c'est-à-dire qu'on peut inhaler ou ingérer des particules radioactives s'il y a des problèmes au niveau de la manutention. Et il peut aussi y avoir des accidents et qu'il y ait une reprise de la réaction en chaîne. Donc ces combustibles, ces convois, ils sont extrêmement surveillés et sécurisés. Et donc ils arriveraient essentiellement par train à l'intérieur du site. Là, il y a des terminaux ferroviaires et aussi routiers, parce qu'il y aura peut-être des transports par route quand même intermédiaires, etc. Là, on vérifie des colis. On vérifie d'où ils viennent. Enfin, quand je dis colis, c'est des colis qui font plusieurs tonnes. Hein. C'est pas le colis qu'on envoie, que votre grand-mère vous envoie quand vous êtes en colonie de vacances. Donc, on vérifie la provenance, le contenu. On fait des vérifications radiologiques, voir s'ils sont pas fuyards, s'il n'y a pas de la radioactivité qui en émane. On décharge ces colis. Ça, le contrôle à l'arrivée, c'est fait par des humains, par des travailleurs. Après, tout est automatisé parce que c'est trop dangereux. Hein. Il ne peut pas y avoir d'humains. On décharge les colis, on les met sur des chariots roulants. Les chariots roulants, ils sont transportés de manière souterraine, dans un tunnel souterrain. On les emmène dans les bâtiments idoines. Là, on va les redresser avec des palans. On va enlever le couvercle. On va les faire rouler. On va les amener, les incliner pour les faire glisser dans des immenses paniers en acier boré, le bord c'est fait pour ralentir la réaction nucléaire, et après on va les faire les déplacer à l'intérieur du bassin. Hein. Donc toutes ces opérations-là, elles sont automatisées. Ce sont des robots, enfin des machines qui le font. Il n'y a pas d'humain là-dedans. Hein. Voilà.
Ok. Alors c'est quand même inquiétant tout ça, quoi.
Ah bah, on va y arriver. Hein. La partie suivante, c'est sur les risques et les dangers.
Voilà.
Je développerai,
En
hein, je
fait,
développe la
je
partie.
pousse un peu parce qu'on a fait 2 fois plus de temps que prévu,
Ah, d'accord, ok. Bon,
là.
et donc du coup, après donc il y a tout un tas de protections qui sont quand même prévues à l'intérieur de cette piscine. Il y a des patins antisismiques pour réagir pour protéger de séismes éventuels. Il y a une double coque pour protéger de chutes d'aéronefs. Bon, donc il y a une réfrigération qui ne sera pas par eau. Parce que dans les centrales, c'est l'eau, hein, on projette de l'eau, on pompe l'eau dans les rivières, dans les fleuves, dans la mer pour refroidir. Là, ce sera par air, ce sera des échangeurs aérothermes pour maintenir l'eau pas trop chaude. Et puis, il y aura des déchets, parce qu'on va fabriquer plein de déchets, pas trop radioactifs, mais tous les colis, les contenants, les outils, les gants, les tenues de protection, les surchaussures, tout ce qu'on veut. Tout ça va faire des déchets de faible activité, mais quand même des déchets radiologiques pour lesquels il faudra créer des filières ou qui devront être emmenés dans des filières qui accueillent et qui stockent des déchets de faible activité. Et puis il y aura, donc le dossier dit qu'il y aura des effluents, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont être rejetées, des matières radioactives, mais on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas en quelle quantité, et on nous dit que ces effluents seront rejetés dans le milieu naturel. C'est quoi le milieu naturel? Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est le sol? Est-ce que c'est l'eau? Voilà. Donc là, il y a des tas d'imprécisions. Voilà. Donc là, j'ai fini la deuxième partie avec beaucoup de
Même la
retard.
troisième, non? Même la troisième.
Pas complètement, pas complètement, parce que bon, dans
Ah, c'est bon,
les
je croyais
dangers, mais c'est vrai que
que
ça va aller très vite. Ça va. Est-ce que déjà la deuxième partie, c'est clair, Claude?
Bah pour moi, oui, j'ai pas de réaction qui dit pour moi ça l'est, oui. Donc j'ai pas de réaction qui me dit que ça l'est pas.
D'accord. Donc, pour
Vas-y.
les risques, la troisième partie, c'est donc les risques, les dangers. Bon, il y a deux moments. Il y a l'installation dans son fonctionnement habituel quand ce n'est pas accidentel. Déjà, j'en ai parlé dans la partie précédente, hein. Il y a augmentation des déchets nucléaires, il y a augmentation des rejets, déjà qu'on contamine la planète de manière radioactive en continu, avec les essais nucléaires aériens qu'il y a eu, avec les catastrophes nucléaires, avec toutes les centrales nucléaires qui rejettent en permanence et ça perd. Très peu de gens le savent, des radionucléides dans l'air et dans les fleuves et dans l'eau, avec l'usine de Lague, avec les industries qui produisent des armes thermonucléaires, on rejette en permanence dans l'environnement de la radioactivité. Alors on nous dit que la radioactivité naturelle, ça existe, certes, mais pas à ce degré. On n'est pas obligé d'en rajouter. Et voilà, donc là, il va y avoir avec cette installation, bien évidemment, encore une augmentation de déchets nucléaires et de rejets dans l'environnement. Ça, en fonctionnement normal. Mais après, il y a des risques d'accident. Et justement, l'autorité de sûreté nucléaire, dans son avis, voilà ce qu'elle dit. Je vais essayer de trouver la citation. Voilà. Elle dit que EDF estime qu'il n'est pas raisonnablement possible, en l'état actuel des connaissances, de limiter les effets d'une fusion du combustible. Donc on ne sait pas limiter les effets d'une fusion du combustible. Or, il y a deux scénarios qui pourraient arriver dans cette piscine et qui pourraient conduire à la fusion du combustible. C'est la perte de refroidissement, parce que si on perd le refroidissement de l'eau, on en a parlé déjà un peu tout à l'heure. Au bout d'une semaine, enfin, tant que si l'eau diminue, hein, si les 4 mètres diminuent, si on arrive encore à 2 mètres d'eau au-dessus, voire 1 mètre, on peut encore intervenir depuis le bord du bassin, mais après, c'est plus possible. Et si le combustible est à l'air, enfin n'est plus recouvert d'eau, là, c'est l'accident nucléaire. Hein, c'est pas, voilà. Bon. Donc, il y a ce risque de perte de refroidissement. Et puis le deuxième. C'est la vidange accidentelle à la suite d'une brèche dans le bassin. Hein. Et donc, l'ASN a demandé à EDF de revoir sa copie sur ces deux points-là parce que ce sont quand même des risques inconsidérés. D'autant plus qu'il y a des quantités énormes. Hein. Donc, ça, c'est un accident nucléaire qui atteindrait tout le territoire environnement. environnant, mais pas seulement sur quelques kilomètres, hein, mais peut-être sur 20, 80, 100 et plus, parce qu'on sait bien que après, avec selon la direction des vents, etc., la contamination radioactive se disperse, se dissémine. On a bien vu avec Tchernobyl, hein, on en a bien eu en France, hein.
Donc
Voilà.
la région parisienne pourrait être concernée, quoi.
Bah, s'il y avait du vent pour aller de Belleville à Paris, je sais pas exactement quel vent il faut. Hein, du vent de sud,
Comment,
peut-être.
ouais.
Ouais, bon. Alors, si ça se passe à un moment où il y a un vent de sud, bah oui. Sinon, les vents d'ouest sont dominants, donc ça serait je sais pas, toute la Franche-Comté, la région Bourgogne, et puis plus loin même, hein, les pays limitrophes par là. Mais ça serait une catastrophe aussi pour le territoire environnant, hein, pour enfin, les gens sont obligés de partir. Il y aurait des retombées au niveau sanitaire, au niveau de la santé, parce que le plutonium, si vous en ingérez un microgramme, c'est cancer assuré, hein. C'est donc des risques sanitaires. Et puis, alors, j'en parlerai après, mais je peux déjà en parler ici. Et si ça se fait par exemple le long de la Loire ou le long de n'importe quel fleuve, c'est tout le fleuve, toute l'eau du fleuve en aval qui est contaminée, les nappes phréatiques. Les captages d'eau potable, on n'a plus d'eau potable, hein, elle est contaminée de manière radioactive. C'est toute l'activité économique, les productions agricoles, enfin tout qui est entamé, qui est réduit à néant, quoi. Voilà. Et donc, enfin, faire cette espèce de, comment dire, de pari de savant fou, un peu, quelque part, hein, de se dire, bon, parce qu'EDF nous dit, bah, ça n'arrivera pas, c'est très peu probable, c'est très peu probable. Mais est-ce qu'on a le droit de prendre de tels risques pour un truc qui est très peu probable? Et là, je dirais que en fait, il y a des aléas qu'on ne mesure pas sur 100 ans. Il y a tous les aléas climatiques, parce qu'on sait qu'on est dans une période où on va vers un dérèglement climatique, avec des événements climatiques extrêmes et imprévus et inconnus. Hein? Si on a des canicules à des températures excessives, est-ce que du coup on pourra refroidir? Est-ce que l'air ambiant suffira à refroidir l'eau? Il faut que l'eau elle soit, je crois, enfin c'est pas, c'est secret, hein, c'est top secret dans le dossier d'EDF, mais d'après les questions que j'ai posées, il faudrait qu'elle soit à 35 degrés à peu près.
Voilà, et combien de temps pour que ces matières refroidissent aussi?
Ah bah, je te dis, les combustibles usés MOX, il faut que ça reste. Pour être suffisamment refroidi pour être transporté, c'est pas froid, hein, c'est suffisamment refroidi pour être transporté, mais ils continueront encore pendant des centaines d'années à dégager de la chaleur. Mais pour être suffisamment refroidi, il faut qu'ils soient sous eau, si on choisit la version sous eau, entre 50 à 70 ans.
Ouais, c'est ça.
Tu vois?
Ouais.
Et
D'accord.
donc, avec les aléas climatiques, parce que par exemple, EDF a calculé, par exemple, pour les inondations, il se base sur l'inondation connue la plus haute, en Loire, par exemple, sur le niveau de crue le plus haut, et il majore d'un pourcentage. Mais sauf que je ne sais pas si dans les 100 ans qui viennent, avec les éventuels phénomènes extrêmes climatiques qui vont probablement se profiler, est-ce qu'on peut se baser sur des phénomènes connus.
Ben, on a vu que la Loire était particulièrement basse l'année dernière, par
Alors
exemple.
là, par exemple, oui, elle était basse. Bon, alors il se trouve qu'ils ont fait l'option de ne pas pomper de l'eau dans les rivières pour refroidir leur truc, parce qu'ils ont bien compris que là, en ce moment, ça devenait vraiment très compliqué. Mais on n'est pas à l'abri d'une inondation, enfin de tornades, de pluies diluviennes, ou
Mais côté Blaye, par
d'incendies,
exemple.
ou. Hein?
Blaye, par exemple, ça a failli être le cas.
Voilà. Saint-Laurent, il y a eu à un moment, la Loire s'est embâclée avec la glace, et ça a failli, on a frôlé aussi l'accident. Il a fallu faire intervenir tout un tas de monde pour casser la glace, quoi, parce que sinon l'eau ne pouvait plus rentrer pour refroidir. Voilà, donc.
Ce site de Belleville, alors, pourquoi il est intéressant ce site de Belleville?
Alors, ce site de Belleville, il est intéressant, bah, parce que d'une part, il est au centre de la France, hein, puisqu'on veut faire un. Il va y avoir des combustibles qui vont arriver de partout. Ça va venir de La Hague, ça va venir de Gravelines là-bas dans le Nord-Pas-de-Calais, ça va venir de l'Ain, hein, de Superphénix. Ça va venir de Tricastin dans la vallée du Rhône, ça va venir du Blayais dans la Gironde, ça va venir de toute la région centre, Saint-Laurent, Dampierre, Chinon. Donc en fait, c'est voilà, au milieu, etc. En plus, ils ont une réserve foncière. Tu vois, parce que la centrale de Belleville, elle était conçue au départ et la surface qui avait été achetée par EDF était conçue pour 4 réacteurs et il n'y en a que 2 qui ont été construits. Donc il y a la moitié de la surface qui appartient déjà à EDF. Hein. Et en fait, eux, là, je vous l'ai dit au début, ils sont pressés par le temps. Il faut que ça aille très vite. Il ne faut donc pas multiplier les embûches sur le chemin pour arriver à obtenir l'autorisation de création de ce truc. Donc le temps de racheter du terrain. Ça complique les choses. Hein. Donc, ils ont déjà une réserve foncière, ils ont déjà la ligne de chemin de fer. Belleville, c'est une des rares centrales où le train arrive dans la centrale. Hein. Ce n'est pas le cas du tout de toutes les centrales. Là, la ligne de chemin de fer, elle rentre directement dans la centrale. Il y a tous les problèmes de raccordement au réseau ferroviaire, les raccordements électriques, enfin, tout plein de choses qui sont déjà faites. En plus, le site, il a déjà été surélevé par rapport au risque d'inondation, par exemple. Donc, il n'y a pas à revoir tout ça. Il n'y a pas à refaire un radier, tu vois, un socle de béton épais pour surélever le site, pour le faire échapper aux inondations. Parce que c'est un site inondable, hein, la piscine de même la centrale.
Est-ce qu'il y a une étude précise de l'impact d'un accident de cette future piscine? Est-ce
Mais
que
non. Ça a été... Enfin, voilà, en tout cas, pas à l'heure actuelle. Alors, ce qu'ils doivent faire, si tu veux, là, pour le moment, EDF a présenté un projet générique, un projet qui n'est pas implanté. Hein, il peut être n'importe où en France. Voilà, il n'est pas adapté à un territoire particulier. Donc là, avant le 31 décembre, il faut qu'ils déposent leur demande d'autorisation de création. Et en même temps, ils vont dire où est-ce qu'ils pensent l'implanter. Voilà. Et là, il faudra qu'ils montrent qu'ils ont tenu compte du territoire, de ses caractéristiques et qu'ils ont pris des précautions. Mais là, pour le moment, ce site les intéresse parce qu'il est déjà, il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Il y a déjà plein de choses. Il est surélevé. Il n'y a pas de zone naturelle. Il y a une zone Natura 2000, mais il n'y a pas d'espèces protégées, de machins, de trucs qui font des obstacles. Le PLU, tu sais, les plans locaux d'urbanisme, qui ouais. peuvent faire obstacle, bah, il est en train d'être révisé. Ils vont pouvoir dire, bah, voilà, il y a un intérêt majeur. On réaffecte s'il y a besoin quelques terres autour pour nous servir. Enfin, tu vois, tout est facile, tout est facilité dans ce choix, dans ce site-là. Donc, voilà, il y a de fortes chances que ça soit là. Et d'ailleurs, il y a eu des fuites en 2018 disant que c'était le site qui avait été sélectionné. Bon, après, quand ils vont faire le dépôt de demande, ils vont peut-être dire donner plusieurs sites pour limiter, pour disperser les oppositions. Voilà. Mais donc ça limite. Ça...
Qu'est-ce qui va décider ça finalement? C'est EDF qui va décider ou c'est le gouvernement?
Non, c'est l'État, c'est le gouvernement. Non, c'est le gouvernement. C'est l'État qui va donner son autorisation in extremis. Hein. L'autorité de sûreté nucléaire, elle donne son avis, mais après, c'est pas elle qui décide. Voilà. Alors on peut parler maintenant peut-être donc des possibilités d'action pour les habitants, pour les riverains, pour les citoyens. Hein. Ouais. J'espère que je suis pas sûre d'avoir exploré tous les éléments, d'avoir tout donné, parce que je pense qu'il y a, voilà, il y a plein de choses à dire. Il y aurait plein de choses à dire. Donc, dans les possibilités d'action pour les habitants, bon, il y a des actions, je dirais, institutionnelles qui sont cadrées par la loi, des moments où les habitants ou les riverains vont pouvoir donner... vont pouvoir interroger, donner leur point de vue, émettre des critiques ou formuler des obstacles ou des oppositions. Ouais. Donc, il y en aura deux.
Il y aura des enquêtes publiques, quoi, c'est ça?
Voilà, il y en aura deux. Il y aura l'enquête publique parce qu'il y a donc le débat public qui a eu lieu l'été dernier. Il a permis d'aboutir à certaines conclusions qui, d'ailleurs, sont... assez critique par rapport à la politique d'EDF, au manque de prise en compte de l'avis des citoyens, etc. Et donc là, ils vont rédiger un cinquième plan de gestion qui va être soumis à consultation du public, normalement pendant le dernier trimestre de cette année. Donc là, là c'est le moment, enfin on pourra exiger que des alternatives soient envisagées, soit des stockages par exemple partiels à sec qui éviteraient l'engorgement, soit l'arrêt du retraitement parce qu'il y a plein de pays qui ne pratiquent pas le retraitement et ce retraitement, c'est-à-dire cette extraction du plutonium et cette fabrication de MOX, ça nous met dans en problème, enfin ça crée un énorme problème. Il y a aussi éventuellement dire est-ce qu'on peut pas sortir du nucléaire? Arrêtez ça. Ok, c'est une énergie peu carbonée, mais il y a d'autres énergies ô combien moins sales, moins dangereuses, moins productrices de déchets pour des grands, beaucoup moins longues durées qui pourraient être envisagées. Hein. Donc ça va être la consultation du public sur la stratégie générale de gestion des déchets, où on pourra s'exprimer. Et puis, au moment de la demande d'autorisation de création, par exemple, s'ils disent on va le faire à Belleville, bah, là aussi, il y aura une enquête publique. Et il y aura des choses à dire par rapport à notre territoire, hein, par rapport à notre territoire, notamment bah, la Loire, les captages d'eau, le fait que le site de Belleville est au-dessus d'une nappe d'eau souterraine importante, le fait qu'on a les vins de Pouilly, de Sancerre, les coteaux du Génois, les fromages, le tourisme, enfin, etc., que ça peut être complètement affecté par cette piscine et les risques qu'elle entraîne. Voilà. L'idée, c'était donc, parce que l'enquête publique, elle ne dure que de 1 à 2 mois. L'enquête publique pendant liée à la demande d'autorisation de création. Et si les gens ne sont pas informés avant, s'ils se sont pas renseignés, s'ils n'ont pas lu, s'ils n'ont pas été touchés par cette problématique, ça va faire ce que font beaucoup d'enquêtes publiques, ça fait flop, hein, y a très peu de gens qui participent. Donc c'est pour ça que nous, on a essayé de mettre en branle quelque chose suffisamment tôt pour que les citoyens soient un minimum informés et profitent de ces opportunités. Après, il y a aussi, les citoyens peuvent s'adresser à leurs élus municipaux quand ils seront ils pourront fonctionner, quand ils seront élus ou quand ils seront installés. Les Comcom, qui ont aussi leur rôle dans tout ce qui est urbanisme, les élus départementaux, les élus régionaux, les députés, les ministres, etc. Donc ça, je pense qu'il va falloir remuer ciel et terre par rapport à ça, en leur demandant bah, est-ce que vous êtes au courant de ce projet, comment vous vous positionnez, est-ce que vous avez de l'information, est-ce que vous voulez de l'information. Il faudra faire des réunions publiques, je pense, d'information. Et puis, alors ça, c'est les occasions institutionnelles. Et puis après, je pense qu'il y a aussi les citoyens à s'auto-organiser, hein. Et donc, bah, avec ces 3V notamment, on a commencé, hein, puisqu'on a commencé à créer une coordination citoyenne.
Ce soir déjà.
Voilà, ce soir déjà, la coordination citoyenne commence à fonctionner. Hein, donc, il y a déjà 15 associations ou collectifs des 4 départements limitrophes de la centrale de Belleville, du site de Belleville, qui se sont reliés, qui ont déjà fait une liste de discussion. Il y a déjà une infolettre, une lettre d'information qui est rédigée, qui peut être envoyée. Et donc là, après, je pense que cette coordination, bon, la semaine prochaine, on va envoyer un communiqué de presse pour rendre public la création de cette coordination et faire une conférence de presse. Et après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont pouvoir nous rejoindre, éventuellement. Voilà. Donc, on donnera l'adresse où on peut contacter cette coordination et où on peut s'inscrire aussi pour avoir l'infolettre. Je pense que ça serait bien de la mettre sur le site de C3V, peut-être.
Oui, bah bien sûr.
Hein, c'est
bien.
Donc voilà, l'adresse, c'est piscinenucleairestop@riseup.net. Voilà. Il y a le site de Sortir du nucléaire Berry-Génois-Puiset, où il y a aussi déjà une page dédiée à ce projet. Il y a pas mal d'articles qui sont recensés par rapport à ça. Voilà, donc il y a cette coordination citoyenne. Il y a aussi donc le collectif qui relie tous les groupes pour la sortie du nucléaire tout le long de la Loire, qui a prévu de faire sa manifestation annuelle au mois de septembre pendant 4 jours dans le coin, hein, à Saint-Amand-en-Puisaye. Donc où il va y avoir des conférences, des ateliers, des débats, beaucoup d'informations sur ce qui est. Donc le thème essentiel, c'est la piscine, hein, de Belleville ou d'ailleurs. Donc là, il y aura moyen aussi de se relier, de voir ce qu'on peut faire ensemble, les gens qui y viendront. Et puis après, chacun d'imaginer, à chacun de s'informer. Je pense qu'on va essayer de mettre sur un site, même sur plusieurs sites, tous les documents qui existent là-dessus et tous ceux qui seront produits sur ce sujet pour que les gens puissent s'approprier l'information et puissent la diffuser dans leur réseau, avec leurs voisins, leurs amis, enfin je sais pas. Il y aura peut-être des actions des manifestations, des mobilisations. Il y a déjà eu deux pétitions, je ne sais pas si on en refera ou si on réactualisera les pétitions qui ont déjà été faites en 2018. Il y a déjà le collectif qui s'est créé dans la Nièvre qui s'appelle Anti-décharge nucléaire de Belleville qui avait fait une pétition, qui a eu déjà plus de 2000 signatures en Nièvre et aux alentours. Et puis il y avait les élus ELV de la région centre qui avaient fait une pétition, une piscine nucléaire ni à Belleville ni ailleurs, où il y avait eu aussi presque 3000 signatures, je pense. Donc peut-être qu'on va les réactualiser, je ne sais pas. Enfin, la coordination va sûrement réfléchir hein, et inventer des moyens d'information et de mobilisation.
D'accord.
Voilà, bah écoute, j'arrête là.
Il
est une heure.
Voilà, bah écoute, voilà. Alors là, j'ai une réaction de... Alors, je vais te dire les réactions que j'ai un petit peu là. J'ai une réaction de Jackie de sortir du nucléaire 89, qui était... Voilà. Il a sa batterie qui a lâché, donc... S'il avait une batterie nucléaire, ça irait mieux. Alors, et donc il dit que sur la question sur le nucléaire, il dit que le stock existant en France est déjà énorme, 57 tonnes et demie en 2011, dit-il de tête, et que les assemblages de plutonium.
On en a bien trop.
Les assemblages MOX étaient entre autres mis en vue pour diminuer l'inventaire de celui-ci. Il dit que en fait, voilà. Voilà, il est intervenu, il intervient comme ça.
Ouais. Non, mais il a raison. On cherche des solutions pour diminuer, mais on en produit en permanence. On en reproduit en permanence, puisqu'on fait le retraitement. À chaque fois qu'il y a du combustible qui arrive à la Hague, on retraite, on réisole du plutonium et on refabrique des stocks de plutonium.
Ouais, c'est ça.
C'est sans fin.
Ouais. Alors, on me dit... Aussi, pourquoi on n'envoie pas ces déchets en Inde? Ça serait quand même plus simple.
C'est vrai, je suis bien d'accord, on a envoyé l'amiante, on a envoyé plein de merde partout, on pourrait bien continuer. Déjà qu'on en a fait plein au Niger, dans tous les pays où on extrait l'uranium, on pourrait bien boucler la boucle. Ouais.
Bon, voilà, donc écoute, c'est vrai qu'on avait fait un truc avec Retour à la normale mi-mars, juste avant le confinement, le film Retour à la normale où tu étais intervenu avec d'autres personnes de SDN Béripuisé. Mais peut-être que vendredi par exemple, le 27, il y a une projection à Château Renard de La Dernière Cordée et qui va se faire avec les gens qui peuvent le voir à 50 km autour. Donc, il faudra peut-être qu'on envisage quelque chose comme ça. Après, s'il y a des gens qui souhaitent intervenir directement, qu'on leur libère les numéros de téléphone, dites-le sur l'adresse C'est Prov et Débat, si vous voulez qu'on vous libère le numéro et intervenir directement. Voilà. J'ai deux questions qui viennent d'arriver. La population à laquelle on demandera l'avis est très favorable au nucléaire car ils y travaillent. Et puis après, jusqu'à quelle distance l'enquête publique concernera les personnes? Alors, j'ai deux questions qui sont intervenues comme ça.
Alors justement, oui, j'ai regardé ça aujourd'hui un peu sur ces enquêtes publiques. Alors normalement, c'est pour les communes qui ont au moins une partie de leur territoire dans le rayon de 5 km autour de l'installation. Donc c'est vraiment très réduit, les communes où sont déposés les registres. Par contre, n'importe qui peut aller en mairie de ces enquêtes publiques, déposer son point de vue. Et il y a aussi, en général, en parallèle, une consultation en ligne, par Internet, où n'importe qui, on n'est pas tenu d'être dans les 5 km, on peut être de partout, hein, et on peut déposer nos avis.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Alors, donc ça, c'est important.
Okay. Mais et par contre pour la remarque précédente, évidemment que là autour de Belleville ou même si ça se fait autour de n'importe quel site nucléaire, beaucoup de gens ont un peu les pieds et mains liés par rapport au nucléaire parce que beaucoup de gens travaillent ou indirectement bénéficient des retombées. Hein, c'est les gens qui louent des logements, les petits commerces, les boulangers, les restaurateurs, toutes les associations sportives, des associations culturelles, tout le monde reçoit la manne d'EDF. Donc, bon, c'est compliqué hein, de s'opposer. Mais je pense que malgré tout, il y a des gens qui peuvent être sensibles. Ben, tu sais, il y a des maires. Après l'annonce en 2018, il y a des maires qui se sont quand même opposés. Moi, je vois le maire de ma commune, il a dit, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir une poubelle nucléaire, parce que c'est ça. Hein. C'est pudiquement appelé piscine d'entreposage centralisé, mais de fait, c'est une poubelle nucléaire, puisque ces matières, ce sont des déchets. Faut pas se leurrer. Hein. Donc, y a des maires qui ont dit, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir une poubelle. Il y a même un maire d'une commune très près de Belleville qui, lui, aurait voulu avoir des nouvelles tranches nucléaires sur sa commune, hein, a fait des demandes pour accueillir un EPR, si jamais il y avait des EPR à construire. Il est pour ça, mais il est contre la piscine.
Ah oui, c'est ça.
C'est étonnant. Je pense que c'est cette idée de poubelle, de décharge, qui fait réagir. Et puis, enfin voilà, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est assez contradictoire.
Ah ouais. D'accord. Écoute, moi, je sais pas. Je t'ai glissé les questions que j'avais au passage. Je te les ai glissées dans le. Donc, j'en ai plus là tout de suite.
Par écrit. Et puis, il n'y a personne qui a demandé à intervenir de vive voix?
Ben, pas vraiment. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui a donné son numéro, mais qui te félicite. Il y a quelqu'un qui te félicite, qui doit te connaître. Christelle Crémier.
Ah oui, 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 d'accord. Bah oui, c'est une conseillère régionale de la région Centre.
Ben voilà. voilà. Donc moi j'ai pas. Je regarde. Je jongle là sur le pad parce que je jongle entre deux trucs. Donc je regarde si j'ai pas des nouvelles choses sur l'autre écran. Top. Non, j'ai rien d'autre. Écoute, moi, je pense que c'est très important ce que tu as fait là. Il faudra sûrement qu'on développe d'autres sujets, hein, ce que tu disais au début, hein, nucléaire et climat, parce que souvent, on nous dit, oui, mais, hein, voilà, il faudra sûrement qu'un jour, on fasse ça, qu'on parle des défis. Voilà. Peut-être que ça suffit. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de retour. Je regarde les deux choses là. Pas de retour direct tout de suite. Je regarde une dernière fois si j'ai des cours. Ah oui, si. Alors attends, j'ai. Il y a quelqu'un qui est allé pisser mais qui a une question. dis-nous. Quelle contre-attaque préparent les nucléocrates contre les actions citoyennes?
J'ai pas compris.
C'est Christelle qui dit. Dis-nous, Catherine, quelle contre-attaque les nucléocrates préparent-ils contre les actions citoyennes?
Ah, eh ben, écoute, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est quand même assez formidable. Bon, l'État a créé. Ça y est, je ne trouve plus mes mots, je commence à fatiguer. Une cellule de renseignement. Voilà. Il y a toute une cellule de renseignement qui a pour but de surveiller les militants antinucléaires, enfin les gens qui expriment des positions antinucléaires, pour créer un fichier qui s'appellera Fusion, je crois, le fichier, et où donc, non seulement les personnels de gendarmerie, les personnels du renseignement peuvent abonder ce fichier, mais je pense que beaucoup de gens peuvent faire ce qu'ils appellent des notes blanches, c'est-à-dire des notes anonymes, où on peut dire, eh ben voilà, moi j'ai un voisin qui a des idées comme ça, qui dit ça, qui s'oppose au nucléaire, etc. Je pense que quand même là, il y a quelque chose d'une dérive, mais c'est pas que par rapport aux antinucléaires, hein, mais notamment par rapport aux antinucléaires, il y a une dérive sécuritaire en ce moment assez énorme. Je ne sais pas aussi si vous avez lu l'enquête en 4 volets qui a été réalisée par une journaliste de Mediapart et une journaliste de Reporter, qui a été publiée dans les deux journaux en ligne. et une tribune auquel nous, à laquelle que nous avons signé, nous, notre organisation. Alors, ces articles, elles ont enquêté hein, sur le dossier d'instruction contre les militants antinucléaires de Bure. Mais c'est énorme, la quantité de mises sur écoute, de surveillance, d'interruption de documents, le coût exorbitant de surveillance et de fichage, c'est absolument disproportionné, complètement disproportionné. Donc je pense que quand Christelle parle de riposte contre des nucléocrates, voilà, ça c'en est une, je pense. La surveillance et le fichage. Bon, en même temps, on est en démocratie, que diable, on a bien le droit de dire ce qu'on pense de certains projets et d'exiger, quand ils sont extrêmement risqués pour les populations, pour la population à venir et pour l'environnement, on a bien le droit de dire ce qu'on pense.
Oui, la liberté d'expression ne s'use que si on ne s'en sert pas.
Voilà. Et après, il y a aussi tout un tas d'alternatives à développer. Hein, parce que je pense que... comment dire? Mais la crise du Covid a réveillé plein de choses chez les gens. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se rendent compte que nos modèles de consommation, de production, de manque d'autonomie, je veux dire, le manque d'autonomie des territoires, c'est terrible. L'électricité, en fait, ça fonctionne avec un réseau interconnecté au niveau européen. Et puis, le nucléaire, ça fonctionne avec, je vous l'ai dit, l'uranium du Niger, du Kazakhstan, de l'Australie et du Canada. On n'est pas autonome au niveau de nos territoires. Il y a vraiment quelque chose à faire, là. À la fois réduire ce gaspillage énergétique, enfin, revenir à évaluer les vrais besoins de la population, les vrais besoins, et à produire des choses en fonction des besoins. Mais pas le contraire, c'est-à-dire pas produire à des échelles industrielles des quantités d'énergie ou des quantités de produits qui servent à rien et après faire consommer ces quantités de trucs. Non, il faut remettre le schéma à l'endroit. Parce qu'on y arrivera.
C'est le projet, c'est le principe mégawatt, quoi. Sobriété, etc.
Et relocalisation de la production énergétique, hein, du mix énergétique lié aux ressources des territoires et lié aux vrais besoins, c'est-à-dire pas plus que ce dont on a réellement besoin.
Là, on sort du sujet un petit peu.
Oui, mais non, parce que je veux dire, oui, ça c'était la riposte des nucléocrates et la riposte des antinucléaires, c'est de développer des alternatives.
De développer des alternatives. Il y a quelqu'un qui me dit là, qui dit mais et si le MOX, s'il n'y a pas la piscine, qu'est-ce qu'on va en faire de ce MOX et tout ça?
Alors voilà, c'est là que donc, je vous disais, l'IRSN a produit une note. Alors d'une part, si on continue à produire du plutonium et à fabriquer du MOX, on peut donc dégager quand même une grosse partie de ce qui est entreposé à la Hague, faire de la place dans les piscines de la Hague, stocker à sec ce MOX qui a refroidi hein, depuis le temps qu'il est à la Hague, qui peut être stocké à sec et donc mettre ce MOX usé frais, si je puis dire, dans les piscines. Après, on peut aussi prendre la décision, et je pense qu'elle va être étudiée au niveau du prochain plan de gestion des matières et des déchets radioactifs, c'est est-ce qu'on continue cette politique de retraitement? Cette politique de retraitement qui veut dire séparer dans le combustible usé, prendre le plutonium et après faire quelque chose avec ce plutonium. Mais il y a que 3 pays au monde qui font cette ânerie, enfin cette hérésie, qui nous entraîne dans une spirale infernale. Si on, parce que l'uranium usé, le combustible uranium usé, il met beaucoup moins de temps à refroidir, il est beaucoup moins toxique et pour beaucoup moins longtemps. Comprends? Donc, en fait, ça, ce combustible uranium usé, on pourrait le stocker à sec. C'est-à-dire, Framatome, une entreprise française, Framatome a conçu des structures d'entreposage à sec qu'elle exporte aux États-Unis, qu'elle vend aux États-Unis. Tu vois? On pourrait les utiliser en France. Si on arrêtait ce choix du retraitement qui a été fait au départ pour la bombe, mais qui n'a plus lieu d'être. On n'en a plus besoin du plutonium. On en a assez pour faire nos bombes atomiques. On en a suffisamment. pourquoi on continue? C'est un espèce de fuite en avant, de truc qui.
Alors, tu as dit que tu en reparlerais un peu, et puis on me tanne, on me dit un petit mot sur Bure, s'il te plaît, Bure, s'il te
Oui.
plaît.
Alors, Bure. Bon, d'une part, la piscine, c'est une zone tampon, hein, entre La Hague et Bure. C'est une antichambre. Hein. Ce qu'on va mettre là, c'est pour le mettre après à Bure. C'est quasiment sûr. Enfin, à Bure. Dans un projet d'enfouissement en zone géologique profonde. Bon, à Bure, la résistance, bien sûr, continue, plus fort que jamais. Là, il devait y avoir une semaine des luttes antinucléaires à Bure au mois d'avril qui a été reportée à cause du Covid, qui a été reportée à début juillet et qui finalement va être reportée à l'automne. Il y a eu toute l'information sur la répression à Bure. Il y a plein d'associations, plein de gens qui ont signé les tribunes. Il y a un front uni, syndical et associatif qui est en train de se mettre au point au niveau national, de l'ensemble de la nation, pour dénoncer toutes les. Tous les manquements, toutes les énormités, toutes les erreurs, tout ce qui n'a pas été pris en compte dans le projet CIGEO. Et eux, ils sont comme nous, la demande d'autorisation de création pour CIGEO, elle doit être déposée avant fin 2020. Hein, on est exactement dans le même timing. Donc je pense qu'il va y avoir de la mobilisation encore plus. Il y a une mobilisation Vandebure, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, c'était l'année dernière. Au mois de septembre, une grosse mobilisation qui avait eu lieu à Nancy, où j'étais allée. Et donc, cette année, ça va être un Vendée-Bure international, c'est-à-dire que ça va s'élargir aux pays transfrontaliers qui sont concernés aussi, hein, s'il y avait des problèmes, etc. Voilà. Enfin, je veux dire, ça bouge. Ça bouge, ça s'agite, l'opposition ne faiblit pas. Et le débat public a quand même mis en exergue et a demandé quand même à l'État de revoir sa copie, de retravailler sur cette question de l'enfouissement. C'est pas encore acquis. Il faut continuer à se battre. Parce que
Ouais,
les militants autour de Bure, ils disent c'est complètement fou d'enfouir ça, malgré ce que l'Ambra dit et que c'est réversible, ça n'est absolument pas réversible. Une fois que les alvéoles remplies et qu'elles sont fermées, s'il y a un problème, on ne peut plus accéder aux déchets qui seront entreposés là, qui vont continuer à chauffer. Tout ça continue à chauffer, ça continue à dégager de l'hydrogène. Nous aussi, à la piscine, ça va continuer à dégager de l'hydrogène. Il y a des risques d'explosion, il y a des risques d'incendie. Si c'est fermé, si les alvéoles sont bouchées, que les galeries sont remplies au fur et à mesure, on ne peut plus y accéder. Et par contre, il y a des cheminées qui vont dégager de l'hydrogène à l'extérieur et de la radioactivité à l'extérieur. Alors qu'au début, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de cheminée, qu'il n'y aurait pas de dégagement à l'extérieur. Donc voilà, il faut continuer à dénoncer tous les points obscurs, tous les points qui n'ont pas été suffisamment mis en lumière sur ces projets.
Bon,
Je ne
ben
sais pas
écoute,
si ça répond.
si, ben si, je crois, si, ça y répond. Alors, il y a une question qui m'arrive. Qu'est-ce que tu penses de Enercop? Oui.
Alors,
Bon.
qu'est-ce que je pense d'Enercop? Ben, moi, je me fournis chez Enercop. Alors bon, j'en pense que c'est quand même une initiative intéressante. Bon, je sais que voilà, il y a des gens qui remettent ça en question, enfin, ou qui critiquent différents aspects. Moi, je pense que quand même, la production d'énergie renouvelable, citoyenne et sous forme de coopérative, c'est-à-dire où les citoyens, c'est eux qui gèrent, hein, où on c'est pas une délégation à l'État, à des gens qui sont très loin de la vie réelle et du terrain. Moi, je pense que c'est capital. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je n'engage que moi. Hein.
Non, mais c'est ce qu'on demande, on demande ton avis, oui.
Voilà. Après, bon, il y a des gens qui disent qu'il y a des fournisseurs qui sont peut-être pas complètement sans prêter flanc à la critique. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je ne peux qu'encourager l'autonomie des territoires, et les coopératives avec de la production locale. Par contre, c'est vrai que là, en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais au niveau des énergies renouvelables, il y a aussi beaucoup de critiques, hein, énormément de critiques. Il y a eu le film de Michael Moore qui est sorti, qui tire à boulet rouge sur les énergies renouvelables, sur l'éolien et sur le solaire. Je pense qu'en fait, il tire à boulet rouge sur les échelles industrielles. C'est-à-dire que le nucléaire, comme les méga ultra, je sais pas si vous avez vu des photos de centrales solaires qui font des centaines d'hectares, etc. Ces échelles industrielles, elles ne visent qu'à continuer sur le même modèle de société, sur le même modèle de production de biens de consommation dont on n'a rien à faire. Sur la pousser les citoyens à consommer. Donc, effectivement, moi, je crois que c'est complètement critiquable, ces échelles industrielles. Par contre, si à l'échelle d'un territoire, avec les ressources qu'on a et avec les besoins qu'on a, on s'organise collectivement, là, ça prend du sens. Et voilà. Ça me paraît augurer d'un modèle de société désirable.
Bon, moi, c'est joli, ça. Hein. Bon, écoute, ouais. Écoute, on pourrait, parce qu'à partir de là, on pourrait balancer sur le GIEC, l'UNSTEA, mais c'est
voilà.
Pas
possible. Voilà, là, c'est énorme, c'est vaste, parce que le GIEC propose plusieurs scénarios. Après, il y a plein de choses à dire sur le nucléaire, sur le nucléaire. Vous savez que quand même, on a porté plainte là au niveau du réseau Sortir du Nucléaire avec pas mal d'autres associations comme Greenpeace, je ne sais plus lesquelles, sur la publicité mensongère d'Orano qui vante le nucléaire comme énergie décarbonée.
Alors Orano, dis-nous, c'est quoi ?
Ah, alors Orano, c'est ce qui s'appelait. Enfin, vous savez qu'il y avait Areva. Tout le monde a peut-être entendu parler d'Areva. Voilà, cette énorme multinationale qui gérait le combustible nucléaire, etc., qui a fait faillite. Hein. L'État français a recapitalisé Areva, a dépensé donc 4,5 milliards d'euros pour recapitaliser Areva, qui a du coup s'est restructuré, s'est scindé en deux, et puis après chacun on refait des filiales, enfin des machins, donc Une des parties de l'ancienne Areva s'appelle Orano, c'est toute la partie qui gère le cycle du combustible, hein, le combustible nucléaire. Il y a une autre partie qui s'appelle Framatome. Hein, c'est, voilà, ils ont repris. Framatome, c'était un ancien nom, mais il a été repris par l'une des nouvelles, des nouveaux visages d'Areva. Enfin, là aussi, hein, franchement, pour s'y retrouver et pour y retrouver ces petits, dans toute cette constellation de filiales, de sous-filiales, de marchandisation de l'énergie, il y aurait de quoi en parler pendant des journées et des journées.
Bon, donc on va être obligé, parce que là ça fait bientôt 1h30 qu'on est ensemble, on va être obligé de s'arrêter, et surtout on va être obligé de reprogrammer autre chose avec toi.
Pas forcément avec moi, hein. trouver d'autres gens.
En tout cas, tu nous tiendras informés. Donc, oui. Merci beaucoup pour ton intervention et puis pour ton engagement. C'est ce que tu vois, c'est des remarques qu'on me fait passer par le pad.
Voilà. Donc, merci à vous tous. J'espère quand même pas vous avoir trop saoulé parce que.
Écoute, bon. On ne sait rien. On va débriefer. On te dira si on est saoulé ou pas. Mais je
pense pas. Non, puis les auditeurs aussi, surtout. J'espère ne pas en avoir perdu. Je ne sais pas si on se rend compte de qui a lâché la conférence en cours de route. Vous allez me dire. J'espère ne pas avoir lâché trop de gens.
Alors voilà. Donc, si vous voulez rester informé là, il faut que vous vous inscriviez à la newsletter de C3V. En tout cas, vous pouvez là, même, il y a quelques personnes qui se sont manifestées, donc manifestez-vous sur C3V Débat et puis sur la newsletter de C3V si vous voulez, et puis on relaiera auprès de SDN, auprès de Catherine.
Oui, puis auprès de la coordination surtout, je pense, auprès de la coordination des
autres. De la coordination dont on fait partie, ouais. Voilà. Et puis voilà, donc écoutez, voilà, merci beaucoup Catherine. Donc la semaine prochaine, ça sera Sylvie Beltrami de l'ADENI et coordinatrice du collectif OGM Pesticides de Lyon, qui interviendra sur la politique de l'État et la politique des préfets en matière de pesticides et de tout ce qui va avec. Voilà. Donc, et puis, ça sera après les Gilets jaunes maintenant, dans 15 jours. À bientôt. Merci. Et puis, merci encore Catherine et bonne soirée.
Bonne soirée à tous et toutes.